Bonsoir. Au nom du Centre Pompidou et de la Bibliothèque publique d'information, je vous souhaite la bienvenue ce soir pour ces huitièmes rencontres d'encre et d'exil consacrées cette année à l'Afrique, si près, si loin. Les rencontres d'encre et d'exil sont maintenant en passe de devenir un rendez-vous traditionnel. Malheureusement, suis-je tenté de dire, car n'oublions pas que ces exils dont l'encre témoigne sont rarement volontaires et souvent empreints de violence. Paradoxalement, certains retours forcés, sont de plus en plus également marqués par cette violence. Et il ne s'agit pas alors d'une violence lointaine, mais d'une violence d'ici et de maintenant. Car il est vrai que si j'ai envie de dire « Bienvenue en France à ces exilés, écrivains et non-écrivains », et si la bibliothèque, la BPI, la Bibliothèque publique d'information, qui est également Bibliothèque nationale, ne l'oublions pas, si la BPI leur donne la parole, ils nous diront tout à l'heure comment ils vivent réellement cet exil. Au cours de ces 8 années d'organisation de d'encre et d'exil, nous avons bien sûr appris qu'écriture et romantisme sont deux choses bien différentes. Nous avons également appris que ces exilés ne nous parlent pas d'une réalité lointaine et exotique, mais bien souvent aussi de nous-mêmes, je veux dire de ces pays où ils se trouvent exilés et des gens qui les peuplent. J'ose espérer que ces exilés nous rapprochent, nous qui sommes loin et nous qui sommes près. D'où ce titre, l'Afrique, si près, si loin. Au cours de ces 3 jours, des rencontres, des tables rondes, des débats nous permettront de découvrir et d'écouter de nombreux écrivains, mais également, demain, de découvrir Nyama Nyama, un spectacle présenté par la compagnie La Fabrique des Petites Utopies. Dimanche, vous pourrez voir le film « Dieu a-t-il quitté l'Afrique ?» et entendre le concert de Mutu Valdo, Sawa Blues, qui viendra clore ces rencontres. Je voudrais finir par quelques remerciements à nos partenaires, Africulture et France Eau, également à la librairie Le Maire le Moqueur, qui sera présente pendant ces 3 jours et que vous avez pu voir à l'extérieur. Je remercie bien sûr tous les auteurs qui ont accepté de participer à ces rencontres et Bernard Magnier, éditeur et journaliste, qui a bien voulu nous conseiller pour la tenue de cette manifestation. Il ne faut pas que j'oublie de vous parler du questionnaire que vous avez pu trouver à l'entrée et qui nous sera bien utile quand vous l'aurez mis dans l'urne pour savoir ce que vous avez pensé de notre manifestation. Et je voulais également vous parler de ce petit ouvrage que vous trouverez à partir de demain sur la table en face également et qui est tout simplement l'ouvrage des rencontres d'encre et d'exil 7, c'est-à-dire de l'année dernière, d'il y a un an, et qui était consacré aux Balkans. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et je donne la parole à Pascal Jourdana pour la première table ronde.
Bonsoir, bienvenue à tous. Merci. Je dis ça à l'ensemble des participants et au public d'être présent à cette rencontre, cette première table ronde intitulée « Exil de l'écrivain, les raisons du départ » avec 4 invités que je vais vous présenter dans un moment très brièvement. D'abord parce que vous avez des biographies et bibliographies qui sont données en détail dans le programme que vous avez à disposition. Ensuite parce que le sujet même de cette table ronde devrait vous inciter à vous attarder en détail peut-être sur vos parcours en tant que femme et homme et en tant qu'écrivain. Fatou Diom, bienvenue. Tu es née au Sénégal. Est-ce que le micro marche?
On va chanter. Bonjour.
Tu es né au Sénégal en 1968 à Niodor, c'est une île. Tu vis aujourd'hui à Strasbourg depuis 1994. Ton premier livre est un recueil de nouvelles paru en 2001 aux éditions Présence africaine, La préférence nationale, un bon succès. Un plus gros succès encore avec le livre suivant, Le ventre de l'Atlantique, un roman chez Anne Carrière en 2003. Depuis, il y a eu 2 autres romans chez Flammarion, Ketala et Inassouvi nos vies, qui vient de sortir en septembre de cette année. Gustave Agakpo, Bonjour, vous êtes né en 1974 à Méo, au Togo. Vous êtes Adéo. Année, prenez le micro comme ça. Si je me trompe, vous pouvez me...
Allô, oui.
Anéo.
Tout à fait, oui.
Voilà. C'est où, exactement?
C'est sur la côte du Togo, entre Lomé, la capitale, et puis Cotonou.
Alors, on situe à peu près comme ça. Oui. En 1974, vous êtes illustrateur, conteur, animateur culturel, metteur en scène, comédien. Vous êtes considéré comme l'un des auteurs dramatiques, donc écrivain, actuels les plus importants. Vous avez eu plusieurs prix pour certaines de vos œuvres. Il y a, je crois, 7 pièces publiées à ce jour aux éditions Lanzmann, la plupart du temps, et 2 albums pour enfants, c'est ça ?
4.
Oui. Ça augmente. Et vous dirigez ou participez également à plusieurs chantiers d'écriture, comme vous les appelez, des ateliers, on en parlera peut-être un petit peu, d'écriture qui ont lieu au Togo, en France, en Belgique et jusqu'en Syrie. Et vous vivez aujourd'hui entre la France et le Togo, c'est ça ?
J'aime bien entre.
Ouais. Entre. Voilà, on parlera de ce entre tout à l'heure. Kossier Fouy, Togo également. Vous êtes né à Enfoin, c'est ça ?
Oui.
1962.
Oui.
Vous êtes également dramaturge. Vous êtes passé par l'université du Bénin avant de venir en France dans les années 80. On en parlera. Vous alternez écriture romanesque et théâtrale. Vous comptez une 12aine de pièces, je crois, si j'ai bien compté, et 3 romans. Vous, là aussi, vous avez été récompensé plusieurs fois par des prix. Le dernier a été très remarqué. Je l'ai ici. Ce solo d'un revenant aux éditions Nom du Seuil qui est sorti à la rentrée de cette année aussi, 2008. Et enfin, Gaston-Paul Effa, vous êtes né à Yaoundé, au Cameroun, en 1965. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 16 ans, à Strasbourg.
14.
Et vous avez commencé à étudier la philosophie, que vous enseignez aujourd'hui en Lorraine, à Sarrebourg. Vous êtes toujours à Sarrebourg?
Oui,
voilà. Vous avez publié une 12aine de livres, récits et romans, dont Ma et Tout ce bleu, paru chez Grasset en 96 et 98, qui vous ont fait connaître, et jusqu'à ce dernier livre, là aussi, il faut que je le retrouve, je ne sais pas où il est, Sous-dium, non, le ventre de l'Atlantique. Non, c'est pas celui-là, je l'ai pas. Nos enfants de la tradition, chez Anne Carrière aussi, en 2008. Voilà, présentation quand même un petit peu longue, mais nécessaire, je pense. Il me semble utile d'emblée de détailler un petit peu plus et de préciser l'objet de cette table ronde. Exil de l'écrivain. Les raisons du départ, je crois qu'il y a dans cet intitulé une invitation à vous interroger sur 2 points qui seront les 2 axes de cette rencontre. Exil de l'écrivain, êtes-vous écrivain avant d'être exilé? Êtes-vous écrivain parce que exilé? Étiez-vous écrivain après avoir été exilé, etc. Ce genre de questions. Et puis les raisons du départ, y a-t-il une raison, y a-t-il des raisons, c'est-à-dire quelque chose d'explicable qui justifie l'acte de partir, ces raisons sont-elles multiples, etc. Donc je vous propose de prendre ces 2 axes de réflexion pour cette table ronde, en commençant par les raisons, avant de parler de l'exil, avec cette proposition, cette interrogation, en fait, en lisant vos biographies. Pour 2 d'entre vous, les choses sont claires, et puis pour 2 autres, rien n'est dit. Alors je vais commencer par ceux pour qui rien n'est dit, en l'occurrence Fatou Diom et Gustave Akakpo, en commençant par toi, Fatou, les raisons du départ.
Alors, rebonjour. Moi, c'est un sujet qui m'interroge beaucoup parce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'ailleurs d'avoir des raisons pour aller vivre ailleurs, hors de l'endroit de naissance, par exemple? C'est d'abord cette mobilité-là. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il s'agirait plus d'un exil dans l'écriture, un exil intérieur. Dans mon travail romanesque, peut-être, dans ma pensée à moi, plutôt que d'un exil géographique. Parce que personne ne m'a demandé de partir du Sénégal. Je n'avais aucune raison politique pour partir du Sénégal. Par contre, j'avais une énorme raison humaine qui était mon petit cœur à moi, qui battait très fort pour quelqu'un qui est né en Alsace. Donc,
c'est une raison.
Oui, et donc cet exil-là, il est plus que doux quand ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? Donc c'est quand même s'exiler en amour, et c'est, je ne connais pas mieux que ça. Il se trouve que ça, mon amour en question s'est cassé la figure et je suis restée en Alsace de mon plein gré. Donc personne ne m'interdit de revenir au Sénégal. C'est juste une nécessité personnelle que je ne pourrais pas justifier par des raisons politiques ou enfin le sens extérieur d'une force qui s'exercerait sur moi m'obligeant à bouger, par exemple. On ne pourrait pas entendre ma vie en France comme cela.
Mais le terme d'exil, tu l'appliques quand même à ce départ, parce que tu l'as dit tout à l'heure, j'ai demandé les raisons du départ, pas forcément de l'exil.
Oui, ça ne peut être qu'un exil au sens figuré. Par exemple, je suis dans une famille d'analphabètes, j'écris, je m'isole en écriture. Je suis née au Sénégal, j'ai décidé de partir de là-bas. Donc il y a cette césure-là géographique, mais il n'y a pas de motivation politique. Quelqu'un qui quitte le Rwanda pour aller vivre ailleurs, on comprend. Victor Hugo qui s'en va, on comprend. Moi, quand je m'en vais, je pouvais être en Australie ou au Bangladesh, c'est absolument pareil, mais il n'y avait pas une force extérieure qui me l'imposait. Enfin, je veux dire, on ne m'empêche pas de vivre là où je préférerais vivre. Donc, je ne suis pas hors d'un endroit idéal par la force des choses. Je suis dans un autre endroit que j'ai choisi moi-même et où je me trouve aujourd'hui.
Alors, choix ou départ imposé, Gustave Akpo, comment ça s'est passé pour vous? Et ce « entre » dont vous avez souligné tout à l'heure l'importance, à partir de quand il s'est imposé?
Je crois que les choses se sont faites. Moi, ça a commencé jusqu'en 2001. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Et donc, j'étais au Togo. Et puis, j'ai participé à un chantier d'écriture organisé par l'association Écriture Vagabonde et Monique Plain. Et puis après, j'ai envoyé un dossier pour avoir une bourse d'écriture Beaumarchais. Je suis donc première fois que je suis venu en France. Ensuite, j'ai rencontré les gens de la communauté de Saint-Étienne. Donc, on avait un certain nombre de projets ensemble, ce qui fait que je suis revenu régulièrement. Ensuite, avec mon éditeur et puis d'autres résidences d'écriture, d'autres projets en Syrie. Et puis finalement, les choses se sont faites un peu comme ça. Et puis, comme dans le cas de Fatou, une rencontre amoureuse ici en France qui fait que bon bah on
ça
est
marche.
Non, ça s'est cassé la gueule aussi, je pense que c'est il doit y avoir un complot international pour faire venir les écrivains par des histoires d'amour et qui se cassent la gueule après, mais bon. Donc ce qui fait que effectivement donc je suis resté plus que j'aurais pensé, tant plus que moi mon départ du Togo m'a posé question. Dans le sens où à l'époque je dirigeais une association qui s'appelle Escale des Écritures qui est une association d'auteurs et de comédiens, de metteurs en scène qui essaie de fabriquer du théâtre sur place, de faire exister une scène, ce qui n'est pas une chose évidente. Et le fait que je parte, je me suis senti comme un traître quelque part. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'entre, parce que je fais toujours le chemin inverse. Et ça, c'est aussi une chose. Enfin, quand je pense à des aînés comme Kossiéfui ou Kanye Alem, qui à un moment donné ont dû prendre la route. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre parce que je les ai vus faire du théâtre. Ça m'a nourri, ça m'a donné envie. Et puis après, je me suis senti orphelin d'eux parce que justement, ils n'étaient plus sur le terrain. Et la seule façon de les avoir présents, c'est leur livre par le Centre culturel français. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont nous, notre génération, s'est senti orphelin de ça. Et on essaie tant bien que mal de ne pas être dans une rupture. Enfin, c'est pour ça que j'insiste sur la notion de entre, même si ça me fait rire, parce que vivre entre Paris et Lomé, ça veut dire quoi? Je vis dans le Sahara ou je vis. Voilà. C'était quoi la question déjà?
Non, vous y avez répondu. Bon. Kossiéfui, Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Gaston Pelefa, on va faire, je vais poursuivre ce petit tour d'abord, puisque c'est une table ronde. Puisqu'on parlait de se sentir orphelin, c'est une proposition inverse finalement, peut-être une proposition, une imposition qui vous est arrivée, puisque si on lit, en tout cas, on imagine que les choses se sont passées peut-être un petit peu comme ça pour vous, dans tout ce bleu, il y a une enfance brusquement rompue pour un autre monde, en l'occurrence l'école religieuse, et puis un départ en France. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous, comme dans ce livre, tout ce bleu ?
Oui, puisque « Tout ce bleu, bonjour » est une autobiographie, comme on dit. Effectivement, le hasard est objectif, qui a voulu que le petit enfant de 5 ans soit enlevé à cette mère à peine pubère qui va vivre dans une communauté qui va creuser son oreille, qui va ouvrir les paupières de son oreille avec cette langue étrangère qu'est l'alsacien et qui va... à l'intérieur même de cette terre qui croyait être la sienne, qui va vivre comme un étranger, et c'est encore de cette terre qu'il va s'envoler pour aller vivre dans une autre terre, toujours des départs, hein, comme dirait le poète, toujours sur le départ, dans une autre terre où il entend encore un foisonnement de langues, non seulement cet alsacien, mais cette autre langue française qui ressemble plus tout à fait à la langue française vu l'accent alsacien, et qui un jour décide de vivre peut-être un troisième exil cette fois-ci lorsqu'il rentre dans l'écriture, où il va approfondir les deux premiers exils. Vous savez que le mot exil lui-même est un mot très simple et peut-être riche. La langue hébraïque dit golé. Golé, c'est le lieu qui nous révèle. C'est-à-dire qu'à la fois, le lieu d'exil est le lieu qui révèle celui qui est exilé et qui lui révèle peut-être aussi le monde dans lequel il s'exile. Autant dire que, à la fois lorsqu'on se met à écrire, on rentre dans ce mouvement de l'exil en traçant des lignes de fuite qui sont simplement les lignes de soi, qui nous révèlent que la terre que nous recherchons n'est toujours une terre étrangère, que là, cette terre peut-être qu'on peut emporter dans son exil, puisqu'on est dans le mouvement d'écriture, c'est la terre de la langue, et cette terre en même temps nous échappe sans cesse, puisqu'elle demeure aussi et se retire sans cesse comme une terre étrangère. Donc je suis toujours sur le départ, je suis toujours dans l'exil, dans la révélation perpétuelle, et j'allais dire c'est peut-être aussi cela, ce que c'est que l'écriture, rentrer dans ce mouvement qui me permet de m'absenter des choses, puisque pour moi ça n'était que ça, les orphelinats perpétuels, je m'absence sans cesse des choses pour que peut-être elles reprennent leurs droits.
On reviendra à toutes ces thématiques que vous lancez, à ces lignes de fuite. Je vais terminer ce premier tour de table justement en parlant de la fuite directement avec vous, Cossier Fouy, puisque vous êtes parti. Pour échapper à une pression, vous avez participé à des manifestations d'étudiants dans les années 80 qui ont été durement réprimées par le régime de togolais et vous avez été obligé de partir. Oui. Ça s'est passé comme ça.
Voilà, c'est un peu compliqué. C'est vrai que certains événements de ma vie font que on peut imaginer que j'ai quitté le Togo parce que j'étais persécuté. C'est vrai, mais en même temps, si la discussion porte sur exil et littérature, je pense qu'il n'y a d'intérêt dans ces événements-là que dans la mesure où ça m'a permis de comprendre que j'étais déjà parti. J'étais déjà parti avant de quitter le Togo. D'abord, j'étais enfant, je rêvais d'être explorateur. Donc voilà, que si j'avais pas eu de ennuis politiques, peut-être que je serais de toute façon parti, j'aurais trouvé le moyen de voyager. La deuxième chose, c'est que j'avais la première fois que je me suis senti en exil, ce n'était pas en dehors de mon pays, c'était dans mon pays. C'est-à-dire que quand on a 14 ans, on comprend très très vite ce que ça veut dire qu'il y a des Togolais à part entière et des Togolais entièrement à part. Donc on sait très bien le sort qui est réservé aux Togolais entièrement à part. Et comme certains signes évidents me désignaient comme entièrement à part, j'avais compris que le modèle déposé de bonheur qui était proposé aux Togolais à part entière, je pouvais le refuser. Et puis j'avais compris aussi à cet âge-là qu'il y avait quelque chose d'agaçant dans le fait que la communauté considère qu'elle a le droit de vous répudier. Et pourquoi est-ce que moi je ne répudierais pas la communauté? Pourquoi je n'irais pas famille, je vous ai? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit? Pourquoi devrais-je attendre de la communauté qu'elle me délivre un brevet d'appartenance ou d'humanité? Alors, il m'est apparu très très vite qu'il fallait que j'assume ce statut d'exilé de l'intérieur, de Togolais à part entière. Et il se trouve qu'il y a une certaine limite où il ne faut pas trop montrer qu'on l'assume. Et c'est à ce moment-là que les coups pleuvent. Donc, si les coups n'avaient pas plu, j'aurais peut-être exploré plus longtemps à quoi ça ressemblait d'être un Togolais à part entière, entièrement à part, donc d'être de ne pas trouver des alliés chez les siens. C'est une expérience très intéressante. Maintenant, ça, c'est moi, mon parcours en tant qu'individu. Il y a une phrase de Flaubert que j'aime bien, qui dit « on s'en fout de l'individu Flaubert ». Alors, si on peut s'en foutre de l'individu Flaubert, alors on s'en fout de l'individu Kossif. La question pour moi était de trouver, s'il y a un lien entre cette expérience vécue et l'invitation à l'écriture, il a bien fallu que ça passe par les poètes. C'est passé par Baudelaire, un magnifique poème de Baudelaire sur l'exil, qui parle de la négresse phtisique, qui parle de personnages, une galerie de personnages, je crois que c'est dans les tableaux parisiens, une galerie de personnages comme ça qui défilent. Baudelaire, qui n'est pas un exilé, avait un tel entendement de cet exil-là que ça m'est apparu presque comme un territoire à habiter.
Merci. Alors, déjà, plein de choses abordées, on n'en est qu'au début de la table ronde, mais il y a quelques pistes qu'on peut développer ici, peut-être pas entièrement, mais néanmoins commencer à tirer certains films, parce que c'est la première table ronde, cette rencontre inaugurale de 3 jours de débat sur la littérature et l'exil. Je pense qu'il est normal qu'un certain nombre de choses soient posées ici, qui seront développées dans des rencontres ultérieures, mais vous avez évidemment chacun réfléchi à cette notion d'exil, de ce que ça évoquait en vous, à quoi ça correspondait en vous. Et là, vous avez déjà donné pas mal de fils. Alors, je voudrais peut-être avec des lectures et puis continuer avec des interrogations, justement revenir peut-être sur ce sentiment d'exclusion dont a parlé Kossif Fouy, et aussi ce sentiment d'abandon. Exclusion, abandon, à la fois interne et extérieur, si on est parti, mais qui peut être aussi un exil intérieur. Alors, en lisant peut-être un extrait de Catharsis, justement, où une reine déchue est obligée de rentrer dans le rang. Alors, Catharsis, pardon, Gustave. J'arrive. Vous faites du théâtre, alors tous les deux, voilà. Il est qui? C'est un des fils de la reine ailée, un des 3 frères. Donc je vais lire un passage où il est qui apparaît. Il est noir. Elle scrute la pénombre. Non, tu n'es pas il est noir. Qui es-tu? Attendant une réponse qui ne vient pas. Qui es-tu donc? Pourquoi te caches-tu? Il est qui se dissimule davantage. À quoi joues-tu à la fin? Elle voudrait voir ton visage et tu te dérobes. Il est qui ouvre la bouche? Apparemment, il parle, mais on dirait qu'il grogne. Elle dit que tu as la voix de son fils, mais un étrange accent. Tu viens sans doute de loin. Elle pense que tu es... Il est qui fait non de la tête. Elle réalise qu'il s'agit d'il est qui, mais elle rentre dans son jeu. Ah, tu n'es pas. Elle s'est trompée. Elle se trompe souvent, tu sais. Non, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui lui prend de te parler comme si tu étais? Parce que si tu n'es pas, tu ne peux pas savoir. Tu es sûr que tu n'es pas, n'est-ce pas? Il est qui objecte encore de la tête. Elle se demande pourquoi tu dérobes ainsi ton visage. Elle cherche un nom à coller sur ton visage, un nom qu'elle a chassé de sa bouche. Tu reviens sans crier, ni gare, ni rien du tout, et tu plantes ta haine comme... L'oracle a dit « Il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour grandir. Rire moqueur, dit Leki. » Pourquoi se moque-t-il de la reine-mère ? Parce qu'elle s'était fermée à la parole de l'oracle, qu'elle avait massacré ses gardiens et qu'aujourd'hui elle lui prête sa bouche ? Ne sait-il pas que les couleurs changent ? Rire sceptique, dit Leki, qui, à moitié dissimulé dans la pénombre, cherche une place pour s'asseoir. Vexé par le rire, dit Leki. Qu'il s'en aille. Ici, il n'a plus sa place. Il est incertain de lui-même. Il n'est peut-être que souvenir ou réminiscence. Elle ne sait plus quel rêve elle hante, mais elle ne veut pas de haine dans ses rêves. Ici, qu'il s'en aille. Leki était parti. C'est l'exilé. Il revient. Il n'a pas droit au retour.
Je crois que c'est la situation de pas mal d'exilés qui, en partant, avaient laissé une place donnée. Et au moment du retour, l'impression que cette place est restée, alors que cette place, elle a bougé énormément. Et on revient dans une société qui a pris sa propre trajectoire. Et les choses ne peuvent plus être au moment où on l'a laissé. La parole ne peut plus être attachée juste comme ça. Il faut renouer cette parole-là. Alors que lorsqu'on revient, on revient d'exil avec l'impression qu'on a déjà cette place-là, alors qu'il faut la réinventer. Alors on se prend une réalité en pleine gueule. Moi, j'ai des amis qui étaient vraiment dans cette situation, qui sont rentrés et qu'on n'attendait pas. Et je pense que c'est... Alors, le nom de ce personnage-là aussi, il est qui ? Parce que c'est un personnage qui est parti pour se chercher. J'aime bien la scène qui raconte son départ. Si vous permettez que je lise rapidement. Donc, c'est la reine-mère qui parle. Elle parle d'elle-même à la troisième personne. Elle se rappelle comment, en temps de grande misère, elle se rappelle qu'elle avait inventé une tromperie pour ses enfants. Elle mettait une grosse marmite remplie à leur insu de cailloux sur le feu. Pendant qu'ils calmaient leur faim à la vue de la marmite, elle leur égrenait des contes et de temps en temps les rassurait que le repas serait bien prêt bientôt. Et le sommeil finissait par les attraper l'un après l'autre. Une nuit, elle ne sait plus très bien laquelle, il ne dormit pas, ou plutôt il fit semblant de dormir. Dès qu'elle s'éloigna un peu, il souleva le couvercle de la marmite. Elle ne sut quoi lui dire. Que dire à un enfant qui soulève le couvercle de la marmite et t'accroche son regard comme une blessure dans le cœur ? Le lendemain, il n'était plus là, et le vent distribuait les rumeurs. Il s'était noyé, il était parti à la nage, il s'était caché dans un bateau, il avait pris part le désert. Elle s'est retrouvée toute bête de n'avoir pu rien dire, la reine-mère. Je me permets juste de dire aussi une chose. Ici, on raconte que là-bas, il suffit d'ouvrir les mains, même pas se baisser, juste travailler, pas suer, travailler ce qu'on sait faire de ses mains et de sa tête. Et c'est la richesse en n'en plus voir, savoir où garder tout ça. Alors il s'est engrossé de rêves, mais au fil à retordre du temps, il n'a accouché que d'une vie de 3 francs cailloux dans son périmètre carré de 3 francs cailloux avec son mélodrame à 3 francs cailloux et ces petites choses qu'il a grignotées autant. Il s'est dit que si les étrangers du Nord là-bas n'étaient pas venus faire commerce de chair et de sang avec sa mère, il n'y aurait pas eu cet engrenage de galère dans un monde si froid. Et il a la haine. Je crois que Cossy disait une chose tout à fait juste, l'exil déjà de l'écrivain, de l'artiste d'une certaine manière. Le fait que pour pouvoir avoir cette sensibilité-là au monde, il faut quelque part se détacher de soi. Il faut s'exiler hors de soi. Moi, je me rappelle très bien que enfant, je me suis souvent exilé dans ma chambre et dans une société plutôt communautaire où tous les enfants jouent dans la cour. Je suis très souvent dans ma chambre tout seul. Et ma mère dit mais qu'est-ce que tu fais dans cette chambre et qu'est-ce... C'est ça. Je pense que c'est ça déjà le début de l'exil, le fait de se dire tiens on est dans une société. Et quelque part, il y a quelque chose d'autre à inventer. Il y a, des choses ne peuvent pas se faire comme une course de cheval et de chevaux, et puis à un moment donné on suit la course et puis la course s'arrête et puis le lendemain c'est encore une nouvelle course. Non, il y a un moment donné on s'arrête et on interroge cette course là. On pose des questions, on pose un regard sur le monde dans lequel on vit. Et déjà poser ce regard là, à mon avis, c'est déjà se mettre en exil. Et donc il y a ce personnage là, cet enfant qui aurait pu, comme les autres, écouter les contes de sa mère et puis s'en contenter. Non, il a voulu savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite qu'on n'ouvre jamais? Et là, il découvre quelque chose. Et là, tout d'un coup, ça lui semble trop petit, ce monde. C'est pas assez grand pour ses rêves. Et c'est ça l'impression aussi que moi, j'ai ressenti à un certain moment donné au Togo, l'impression que il y a pas assez de place là-bas pour mon rêve. Et que je dois aller ailleurs. Et comme je ne suis pas née plante, si j'étais née plante, j'aurais mes racines au Togo et je pourrais plus bouger. Je ne suis pas née plante, je suis bipède, je peux me déplacer.
Gaston Poléfa, est-ce que ce besoin de s'isoler finalement pour se concentrer, pour trouver d'autres sources possibles de richesse en partant après, mais déjà de se retrouver, est-ce que pour vous c'est proche ou au contraire c'est un sentiment très différent de ce sentiment, puisque je l'évoquais en posant cette question, d'abandon, de ce sentiment d'être arraché au bras de sa mère pour aller ailleurs, un ailleurs qui existe et qui apporte une richesse de langue au départ, mais multiple après. J'ai envie de lire un petit passage de Tout ce bleu. Ce mélange d'effervescence et d'hébétude quand il rentra au couvent. Son déchirement ne venait pas de l'angoisse, ou alors il ne le savait pas, mais du visage de sa mère qu'il voyait devant lui et qui reculait à mesure qu'il avançait, si proche et déjà hors d'atteinte. Ces images aussi qui le poursuivaient et auxquelles il ne pouvait trouver de sens. La première fois, elle était, jour après jour, revenue. C'était presque une image comme on en voit en rêve, deux grandes mains s'élevant entre ciel et terre. D'un même geste, mesuré et recommencé, sa mère le hissait sur son dos, où il demeurait des journées entières dans la contemplation de sa chevelure qui vacillait et menaçait de se dérober pour coïncider enfin avec le souvenir radieux qu'il avait gardé d'elle. Il lui semblait qu'il n'avait déjà plus rien au monde que son passé, sa petite enfance, le souvenir de certains moments plus grands, de certaines minutes heureuses, une seconde, la même sensation inoubliable de sa mère lui frottant le cœur d'huile de palme. Un coup au cœur, si précis, si douloureux qu'il en aurait presque chancelé, tendant d'instinct la main pour se retenir.
Je vais peut-être d'abord réagir à ce que vous avez lu tout à l'heure, l'extrait que vous avez lu de Catharsis, que j'ai trouvé très beau. J'ai entendu une langue particulière et le personnage a un nom qui me fascine, il s'appelle Ileki. Je me suis dit là, vous êtes en train de lire absolument la question que doit se poser tout écrivain. Il est qui ? Et à laquelle veut peut-être répondre l'exilé. Il est celui qui devient, il est sans cesse en devenir, il devient peut-être imperceptible. Et l'extrait avait une langue particulière. J'avais l'impression d'entendre une langue presque déformée, une langue sculptée, une langue de poésie ou même de théâtre, qui me fait penser, puisqu'on était là en train de penser aussi aux autres, parler c'est peut-être aussi faire revivre les morts en nous. Ce Proust qui écrit que les plus beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, c'est exactement ce que j'ai entendu là. J'entends cet être qui est en train de créer une langue à travers une langue banale, qui est la langue française, et qui réintroduit, réinvente à l'intérieur de cette même langue une sorte de langue étrangère. Et cette langue n'est plus la langue de France, ce n'est peut-être même plus la langue d'Akakpo, c'est peut-être simplement la langue de l'écriture. Et maintenant, la question que vous me posez, j'écris les choses auxquelles je suis né. Je vous ai dit tout à l'heure que le hasard a voulu que les choses se passent ainsi. Et je continue à approfondir peut-être l'énigme de cette rencontre que j'ai appelée tout à l'heure d'objectif, pour reprendre ce hasard objectif. Donc je ne fais qu'approfondir à travers l'écriture ces moments particuliers qu'on peut aussi appeler des moments de grâce qui sont faits de douleur et de joie. Donc l'écrivain est celui qui va aller à l'encontre de ces moments à l'encontre et à la rencontre de ces moments, et l'écriture n'est autre chose que la tentative de nouer quelque chose. Et cette chose nous échappe sans cesse. C'est peut-être pour cela que les mains de cet enfant qui veut saisir l'instant restent fermées et l'instant n'est pas là. Et je crois que dans l'écriture, on répète sans cesse ce geste de recommencement, des choses qui, ça va finir et ça recommence, comme on dit au théâtre.
Oui, ça va finir et ça recommence. Ça fait penser à ce titre volatile, à ces oiseaux migrateurs dont il est question dans ce texte, qui est un texte entre la poésie, la voix un peu théâtrale aussi et le récit, où il y a une évocation de ces retours perpétuels, de ces mouvements perpétuels d'oiseaux qui partent, qui reviennent, qui cherchent une terre, mais qui en fait n'ont pas de terre, directement parlé. Là aussi, j'ai envie de lire un extrait. La même voix qu'ils se partageaient pour parler à deux, les ongles jumeaux, comme ils se partageaient tout, de la cravate du dimanche au maillot de corps, comme ils se partageaient le poids de cette mélancolie barbare dans la moustache forestière qu'ils faisaient mine de lisser à grosses pattes, alors qu'ils se cachaient le bas du visage quand leurs lèvres tremblaient. Et ça leur arrivait comme ça, sans fièvre, que leurs lèvres se mettent à trembler, et ça leur arrivait à chaque fois qu'ils parlaient de quitter un jour l'abri d'exil. Ils disaient « l'abri d'exil » pour parler de la terre étrangère, la terre du pays voisin où ils avaient trouvé refuge pour le faire grandir. Ils parlaient de le ramener un jour à l'endroit de sa naissance qu'ils n'avaient jamais connu, que les oncles jumeaux appelaient dans leur histoire le dernier port des volatiles, dans le golfe de Guinée, où s'achevait le voyage des oiseaux migrateurs, où il était né dans une pirogue. » Celui qu'il souhaite ramener un jour à l'endroit de sa naissance qu'il n'a jamais connu, c'est le narrateur, d'abord à la troisième personne et puis à la première personne de ce livre.
Oui, alors c'est le narrateur à qui ses oncles promettent de le ramener à l'endroit de sa naissance, au lieu de sa naissance. Oui, donc la question, le lieu d'exil est un lieu d'accueil tel que c'est présenté par les oncles, c'est l'abri.
C'est l'abri, mais c'est dans une terre étrangère.
Oui.
En même temps.
Oui, peut-être parce que aussi l'importance accordée à l'origine est ici toute relative.
D'ailleurs, pays, j'ai essayé de le dire et de le souligner en lisant, est entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme un pays voisin. Quelle est cette terre étrangère ? Est-ce vraiment un autre pays ?
Oui, c'est un autre pays, ça ne ressemble pas au lieu de la violence, qui est le lieu de la naissance. Ça, pour le personnage. Voilà,
c'est un autre pays, mais...
Je ne dis pas que le lieu de la naissance est un lieu de violence, mais pour lui, oui. Oui, alors... Je crois que la question de l'origine, telle que les oncles lui racontent ça, à partir des oiseaux, la question de l'origine elle introduit à des images multiples. Ce n'est pas voici l'origine. Il n'y a pas un lieu désigné. C'est comme si ça fait partie aussi des choses que l'on construit. C'est comme si ça fait partie aussi des choses dont on a besoin parfois, dont on n'a pas besoin d'autres fois. Ou dont certains ont besoin, d'autres n'ont pas besoin. Dieu, par exemple, certains ont vraiment besoin de croire en Dieu pour mener leur vie. Certains n'en ont pas besoin. Et il me semble que cette histoire d'origine est aussi une question de croyance et que certains n'ont pas besoin d'adhérer tant que ça à ces fameuses racines. Enfin... je crois que c'est ça. C'est l'idée que il y a aussi quelque chose de religieux dans le discours sur les origines.
Et il y a cette promesse aussi que font les oncles, promettre aux enfants de les emmener voir le lieu de leur naissance quand la guerre s'arrêterait. Mais cette promesse-là, elle est éternelle d'une certaine manière.
Oui.
Là aussi, elle se renouvelle tout le temps.
Une personne ne peut promettre que la guerre va s'arrêter.
Fatou.
Je dis un mot sur le
Le texte de Kossi, oui, l'abri quand même, c'est l'exil, ça peut être juste le quartier à côté de chez soi, mais c'est l'endroit où on a l'impression que la paix est possible. Donc même si la guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, il y a la paix qui est visée comme horizon, et c'est vraiment ça le lieu où les oncles veulent amener peut-être pour expliquer l'origine.
Gaston Poléfa, à propos de l'origine et du retour d'une certaine manière, et il y a dans certains de vos livres, là je vais lire le cri qu'une pousse ne réveillera personne, parfois des moments de désespoir ou en tout cas de doute important. Weber, je vais lire un passage, Weber se souvenait de tout et de tous, même quand il semblait dériver ailleurs, le puissant génie du ressouvenir l'entraînait à nouveau dans sa houle puissante où il se complaisait avec une délectation un peu trop appuyée, un peu trop évidente parfois. Ce cancer monstrueux de la mémoire, cette prolifération presque infinie, l'avait poussé dans ses derniers retranchements, et seule une plongée dans les strates enfouies d'un passé plus ancien, plus mythique encore que celui de la mémoire personnelle, à l'origine même de la création, pouvait le sauver, pouvait lever en lui l'aube déchirante d'un nouveau matin. Hanté par la même inguérissable nostalgie du retour, par la réminiscence d'une origine retirée vive du monde et ancrée à la fois dans ce monde, Weber se mit à crier toute la rage contenue en lui. Crispé sur le sol, en position fœtale, il prêtait l'oreille à l'énigme qui bait en chaque homme.
C'est ce que j'appelais approfondir l'énigme. Et je souscris tout à fait à ce que Kossieff-Houy disait tout à l'heure, lorsqu'il dit que l'origine n'est autre que quelque chose de religieux. J'allais même dire que c'est plus que cela, c'est du mythe. Mais pourtant, c'est à partir de ce mythe qu'il faut partir. Il faut creuser le mythe qui est finalement le mythe de l'homme lui-même, le mythe des origines. Il faut aller vers l'origine ou s'en dégager. Mais on ne peut pas faire autrement. Elles vont nous servir de boussole, peut-être une boussole qui va nous perdre davantage dans la barque que prend ton personnage tout à l'heure. Oui, il a une boussole, il va peut-être vers les origines. Est-ce que c'est l'origine? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le commencement? Est-ce que c'est l'arrivée? C'est peut-être ça le sujet de l'écriture. On est embarqué, il faut partir, on recherche ce pays qui nous ressemble, comme dirait encore le poète, mais quel est-il? C'est dans les mots qu'il faut revenir. Puisque comme on dit toujours, nous naissons des mots et non le contraire. C'est peut-être là l'origine.
Fatou Diom, cette recherche permanente, je la lis aussi d'une certaine manière dans ton dernier livre, Inassouvi nos vies, qui est une histoire voilà, qui n'est pas un retour vers une terre des origines. Voilà, on peut résumer rapidement. C'est une femme qui s'intéresse à une voisine, une vieille dame, à des voisins, mais elle s'intéresse plus particulièrement à cette dame qu'elle observe de loin et pour qui elle se prend d'affection finalement. Et la voyant un jour partir, disparaître plus exactement, dans une maison de retraite, de repos, abandonnée des siens, décide d'aller à sa rencontre et de s'occuper d'elle. Mais le livre est porté par la poésie des mots, justement, et par cette litanie autour du mot inassouvi. Et je voudrais lire un passage qui me semble se rattache complètement à ce que vous venez de dire, Gaston Poléfa. Que veut-on combler? D'où vient l'inassouvi? Inassouvi. Ce mot gémit, souffle et susurre à nos oreilles tant de manques, tant de ratés. Il contient certainement une part non négligeable de ce qu'il nous faudrait saisir pour comprendre nos joies comme nos peines. Combien d'amitiés, déchirées ou perdues, en cours de route, inassouvies. Combien d'amours, larvés, enterrés, sans requiem ni fleurs, inassouvis. Combien de rêves, malgré la volonté d'oubli, continuent d'alimenter nos soupirs, inassouvis. Combien de désirs, devenus dépit parce que, inassouvi. Combien d'êtres chers partis à l'aube de notre affection nous laissent inassouvis. Combien de choix ou de non-choix s'inscrivent en nous les tenaces regrets de l'inassouvi. Et puis, parce que vivre, c'est survivre à quelqu'un ou à quelque chose, à qui, à quoi renonçons-nous, humblement défaits ou dignement amputés, mais toujours inassouvis.
Je ne sais pas qui a écrit ça.
Ça t'émeut.
C'est très facile de se planquer dans un appartement avec un ordinateur et puis de descendre en rappel son inconscient. Puis après, là, c'est l'exil. Quand je me retrouve à sortir ces mots-là, je suis face à moi-même. Donc pour moi, encore pour revenir à cet exil, à ce que disait Kossi, il y a l'exil où on sait qu'il y a le danger en tel lieu, mais le danger, il est tellement multiple, il a plusieurs visages. On peut se sentir exilé et être sur cette île. Moi, je suis née sur une île. Et dans cette île, j'étais une île moi-même dans ma propre famille. Donc, plein de choses inassouvies. Et pour parler de l'exil, je suis toujours obligée, moi, de retourner à l'enfance. Et de retourner à cette grand-mère qui était mon îlot, parce qu'il n'y avait pas les parents. Et donc, c'est là où il y a, pour moi, la violence qui fait que, écrivant déjà, je circonscris quelque part mon lieu où je peux survivre. Et ça se passait déjà au sein de la famille. Je n'ai pas commencé à écrire en France. J'ai commencé à écrire, j'étais au Sénégal, et c'est très daté, précisément, quand j'avais 13 ans. Et j'étais en ville, précisément, dans une petite piole pourrie où je me planquais de tout le reste de la société. Et j'écrivais là. Et j'écrivais là ce que personne ne voulait entendre. Et quand je suis partie, j'ai continué encore cette écriture. Et d'ailleurs, c'est le vent de l'Atlantique qui, pour moi, correspond le mieux à cette idée du départ. Et pardonnez-moi, mais je vais citer, c'est le mien, et puis j'assume, hein, donc vous en pensez ce que vous voulez, mais je cherche mes mots et il m'est plus facile de les réciter parfois. Donc, à un moment donné dans ce livre, je dis, partir, c'est avoir tous les courages pour aller naître de soi, même naître de soi étant la plus légitime des naissances. Donc il y a déjà une reconstitution d'une unité pour moi. Et c'est aussi découvrir l'horizon qui est vierge en fait de notre histoire. Moi je viens en France, on ne me demande pas qui est mon père, qui est ma mère, on s'en fiche comme de l'an 40 et c'est génial parce que ça me permet de reconstituer ma propre histoire et ça me permet de faire un flashback et d'assumer ce que je veux garder de mon histoire, de me l'approprier, de me reconstruire mon identité. Et à partir de ce moment-là, les inassouvis peuvent rester là comme des creux, mais ce sont des creux qui ne font plus partie de moi. Donc compensation en retrouvant l'abri, déjà psychologique et enfin géographique.
On n'écrit pas parce qu'on veut écrire, on écrit parce qu'on ne peut vivre sans. Écrire, c'est une métamorphose, puisqu'on écrit avec ce que la vie fait de nous. L'écriture mange le pain de chaque jour, quel que soit son goût. Écrire, c'est tirer la langue à la faucheuse. Écrire, c'est survivre. L'écriture réchauffe là où le froid règne en maître et rafraîchit là où l'ardeur se fait insoutenable. L'écriture se situe entre le harakiri et le gaudeamus. Mus. Toujours avec humour.
Parce qu'on s'éclate. Si quelqu'un rigole en lisant mon livre, il faut vraiment qu'il imagine une folle fatou devant l'ordinateur. Parfois, je m'arrête, j'éclate de rire. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que t'es folle. Et ça m'amuse. Et puis, il y a d'autres fois où j'ai un blues, mais infernal, quoi. Et là, je me mets un litre d'eau devant moi et puis un rouleau de sopalin. Je mets une musique bien triste et puis j'assume. C'est ça aussi ma faiblesse qui me fait écrire. Et quand on a craqué un bon moment, on accepte. C'est juste cette île-là de fragilité où on accepte qu'on est tout petit face à la vie, que cette fragilité-là, c'est moi, et que cette grande gueule-là, c'est moi, et que si on l'imagine super forte, c'est moi, mais tous ces trous qui fragilisent la dentelle, c'est aussi moi, et ça fait peur. Mais quand on écrit, on arrive à réunir tout ça, donc entre la brûlure d'exister, comme je l'écris quelque part, et la joie de vivre. Et les deux brûlent la même personne. Donc voilà, et cette île-là, on est doublement sur une île quand on écrit. Parce que vous savez ce que je mets dans mes livres. Si je prenais une copine et je veux lui raconter ça, elle n'aurait jamais la patience d'écouter ça. Non mais c'est vrai, et je suis obligée de la kidnapper et de l'enfermer dans un bouquin. Et là, elle va lire de la première à la dernière page. Elle est obligée d'entrer dans ce monde fermé du roman pour enfin s'imbiber de mon histoire. Mais son oreille n'aurait pas eu la patience de tout prendre. Et c'est aussi ça, double enfermement et de l'auteur et du lecteur. L'île.
L'île, l'île de l'auteur, du lecteur, ça évoque quelque chose pour vous, Gustave?
Moi, je dirais l'île de l'humain. Parce que je crois effectivement parler de la question de l'exil, c'est finalement revenir à cette question, nous sommes qui, il est qui, comment je me définis? Parce que toute l'histoire finalement, c'est que moi j'avais quel âge, quel âge, peut-être 15, 16, 17, je ne sais plus, quand j'ai lu la première fois ce titre qui m'a terriblement fait peur et qui m'a fait mal au ventre, c'est « Le cri que tu pousses ne réveillera jamais personne ». Et je pense que quelques temps après, tu t'es venu au Togo et moi, c'est parce que cette phrase sonne autrement dans ma tête. Mon cerveau le convertit en « Personne ne t'attend ». Et je crois qu'il y a cette chose-là terrible quand même, qu'il y a deux personnes qui fricotent quelque part dans une chambre ou ailleurs, je ne sais pas, ou qui vraiment ne font pas que fricoter, ont vraiment envie d'accoucher d'un rêve qui va s'appeler un bébé, qui aura une gueule et tout ça. Mais c'est une histoire privée. Et puis tout d'un coup, l'histoire privée, il faut qu'elle devienne une histoire publique parce qu'on va faire partie d'une société à laquelle on va participer, à une société qu'on appelle l'humanité, mais qui ne vous a rien demandé. Il y a déjà ce paradoxe de la naissance, et puis il y a cette chose qui fait que tu nais quelque part et puis tu as une identité. Ça veut dire qu'on a tracé une gueule et dans laquelle on voudrait vaille que vaille te mettre.
Avec plein de chocolat.
Oui, effectivement. Moi, je suis toujours. Ça m'amuse toujours jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on dit que je suis noir, mais je suis pas noir. Vous n'êtes pas blanc. Mais ça fait toujours partie de ces choses-là qu'on a fabriquées et dans laquelle on veut rentrer. Et je pense que dans la vie, on a le choix soit de rentrer dans ces choses-là et de brouter tranquillement sa vie, ou alors, à un moment donné, on se dit arrêtez là, arrêtez vos conneries. J'ai envie de savoir. J'ai envie d'aller au-delà de ça. J'ai envie d'habiter mon histoire. J'ai envie d'accoucher de moi. Mais quel est ce moi? Et je pense que si les artistes prennent plus le temps de se consacrer à ça, parce que c'est comme ça, et en même temps, je trouve que toute personne qui a... parce que pour moi, la poésie n'est pas qu'une question d'artiste, c'est une question d'humain. Toute personne qui a cette musique, cette poésie en elle, à un moment donné, se pose cette question-là. Effectivement, ça fait des crises d'identité, etc., etc., etc. Mais il vaut mieux une crise d'identité qu'un mouton. Et je crois que c'est ça, déjà, le premier exil, à proprement parler. C'est qu'on nous a fabriqué une histoire, et puis à un moment donné, on sort de cette histoire, on la regarde, on interroge cette histoire. Déjà, c'est déjà l'acte d'exil. Et je comprends... Et c'est pour ça que c'est assez dramatique. Alors, je ne sais pas comment on peut résoudre ces questions de frontières, du fait que la France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, même si elle peut accueillir toutes les richesses du monde, ceci dit en passant. Mais je ne sais pas, je ne fais pas de la politique, je ne suis pas économiste, je ne sais pas comment on peut résoudre ça. Mais je trouve terrible que quelqu'un naisse et puis qu'on lui dise « Voilà ton périmètre carré, tu ne bouges plus de là ». Je trouve ça quand même que ce n'est pas très humain tout ça. Et qu'aujourd'hui, on regarde avec un air presque naturel le fait qu'on reconduise les gens chez eux, les gens qui ont eu envie d'accoucher d'un rêve ailleurs. Et que finalement, ça, c'est devenu quelque chose de naturel. Peut-être que dans quelques années, on dira que c'était un crime contre je ne sais pas quelle humanité. Mais pour le moment, ça ne l'est pas encore. Et voilà.
Gaston Poléfa, vous aviez envie de réagir, hein?
Non, pas particulièrement. Je souscris encore une fois à ce qu'il dit. Je pensais justement, parce qu'elle Fatou parlait tout à l'heure d'îles et qu'aussi d'abris, je trouve qu'on est complètement dans le mouvement d'écriture. Je pense que tout écrivain est toujours en train de se donner soit une île, soit un abri. On pourrait peut-être dire il donne une terre possible. Et là, on peut aussi dire une terre à la fois un espace, peut-être un lieu de silence. C'est-à-dire là où il n'y aura plus de mots, peut-être où il y a une infinité de mots, où chacun a la possibilité, en y rentrant, de réinventer à la fois le père, la mère et le fils qu'il veut avoir.
Alors, une terre qui n'est pas liée justement au territoire, j'ai envie de revenir un petit peu là-dessus parce que vous l'évoquez dans tous vos livres, finalement, cette question d'être étranger. Mais évidemment, ça renvoie à tout ce que vous venez de dire. Je voudrais repartir un tout petit peu en arrière en citant la fabrique des cérémonies de Cossier-Fouille avec cette proverbe. Enfin, c'est pas un proverbe, mais c'est un dialogue. Une des personnes se demande si c'est un proverbe. Je suis né ici, c'est ça que je raconte. Né ici ne fait pas l'habitant étranger. Et l'étranger se demande si c'est un proverbe, justement. Je répète, je suis né ici, c'est ça que je raconte. Né ici ne fait pas l'habitant étranger. Bon, ça c'est un. Voilà, juste petite chose. Et puis un passage un petit peu plus long d'une pièce de théâtre, Abat Alep, de Gustave Akakpo, où il est aussi question peut-être d'étranger, mais sûrement. Tu m'écoutes avec tout le respect que tu me dois. Je suis ce qu'on appelle ici un citoyen étranger, une minorité ethnique, un peuple auquel le temps a donné des visages, des manières, une langue, qui se meurt pour laisser la vie à une autre, plus officielle, indivisible, une et suprême. Mon père m'a donné l'écoute du corps humain et animal, des plantes, du vent. Alors il m'a pris le rêve de faire médecin. Pas devenir médecin, je l'étais déjà par mon père. Faire, juste faire. Mais avec mes papiers de citoyen étranger, minorité, comme tu dis, je n'avais pas l'autorisation légale de faire médecin. C'est la loi qui fait et défait. Aujourd'hui, mon fils travaille à la police. Je ne lui ai pas donné le nom de notre culture ni la langue. Cela lui aurait juste brouté sa vie d'homme. Ils avaient besoin de bras pour cracher la guerre à Bécité. Et même les bras minoritaires étaient les bienvenus. J'ai dit à mon fils, laisse ta marque sur le souffle du temps qui passe. Tue le temps qui t'accuse de ce que ton père est. Sois plus fort que tout et vis. Aujourd'hui, il n'est plus un citoyen étranger, citoyen tout court, tout simple, tout bête. Ça me fait penser à justement à ces volatiles aussi de l'évocation de la dissolution des frontières. Donc, est-ce que par rapport à ça, vous voulez ajouter quelque chose, compléter, renvoyer à ce qui s'est dit auparavant? Ça vous laisse songeur?
Non, mais c'est
vous qui l'avez écrit.
Ça me replonge parce que c'est un texte que j'ai écrit après une résidence d'écriture en Syrie. Et c'est un texte qui est beaucoup nourri de toutes les rencontres que j'ai faites là. Et c'est vrai que quand on y était, enfin moi j'étais sensible à un problème, c'était le problème des minorités. L'État syrien dicte chaque année, je ne sais plus si c'est chaque année, mais en tout cas une certaine périodicité, les métiers que peuvent exercer les minorités. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a
un système de quotas.
Un système de quotas, exactement. Donc, du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans métier, tout simplement parce que ce métier-là n'existe plus pour la minorité que tu y es. Je trouve l'idée comme c'est une farce, quoi. C'est les plus grosses bêtises, finalement, deviennent comme des farces. Et donc, ça m'a replongé dans ça.
Mais ce texte, justement, qui est lié à quelque chose de complètement de très précis, de complètement conjoncturel, quand on le lit sans connaître forcément ces raisons-là, renvoie à quelque chose de beaucoup plus général, universel, justement.
Je pense que c'est aussi la force de ce qui fait notre humanité. Finalement, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je pense qu'à partir du moment où je parle de de ma pâte de maïs, de chez moi, de l'amour que j'ai pour manger ce truc-là, ça renvoie à l'amour que quelqu'un a dans un autre coin du monde à manger le plat de sa mère, je ne sais pas quoi. Voilà, il y a ces choses-là qui font que nous sommes humains et que finalement on ne prend pas en compte. C'est-à-dire ce qui est, à mon sens, formidable dans la rencontre avec l'autre, c'est que quand moi je viens avec ce qui me définit, c'est que finalement il y a une place où il y a quelque chose de nouveau qui peut se créer avec l'autre. Mais si moi je viens avec je suis déjà dans une case et que je me dis cette case-là, voilà ma case, je n'en sors pas, voilà comment je me définis. Quelle est la place pour l'autre? Quelle est la place pour créer quelque chose de nouveau? C'est ça. Moi, je déteste les cases. Et là, les frontières me font toujours penser à des cases. Hop, c'est la case, tu circules dans cette case. C'est comme cette histoire de... moi, je suis un auteur africain. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe sur l'Afrique, je suis content qu'on m'invite parce que je suis un auteur africain. Mais en même temps, si après, je ne suis invité que comme auteur africain, ça me gêne. Si l'Afrique, pour moi, n'est pas une case... Pour moi, l'Afrique, c'est une case de départ. Tout comme Shakespeare est pour moi une case de départ. Sony est pour moi une case de départ. Mais à partir du moment où la case de départ devient une case d'arrivée, on fabrique toutes les bêtises possibles. Après, on peut très bien aller au Rwanda sans problème. On peut faire Auschwitz sans problème à partir du moment où on fabrique ces cases-là. C'est pour ça que, à mon avis... l'exil doit être une chanson qui doit nous accompagner. Parce que parler d'exil, c'est déjà dire, tiens, ça c'est le territoire d'ici pour certaines personnes, et puis les autres qui viennent là-bas, c'est des exilés. Alors que moi, c'est pas ça, l'exil auquel je pense. L'exil, c'est qu'on nous a fabriqués dans ce monde sans demander notre avis, et qu'à un moment donné, il faut qu'on s'invente dans ce monde. C'est ça le vrai exil, c'est ça le vrai chemin à trouver. Pas les bêtises de frontières et conneries.
Je crois que Gustave Acapo met le doigt sur ce qu'il y a de religieux dans la plupart des discours sur l'origine, surtout lorsque ça devient un discours qui appelle à une adhésion totale en dehors de laquelle il n'y a point de salut. Je crois que c'est curieux d'imaginer que l'on définisse où ça commence, c'est-à-dire l'ancêtre fondateur. Et à certains moments, on peut se demander aussi, en tout cas en 2008, pourquoi est-ce qu'on s'arrête à tel ancêtre? Pourquoi est-ce qu'on remonte pas jusqu'à la paramécie, jusqu'à l'être unicellulaire? Et il semble aujourd'hui que les scientifiques nous disent aujourd'hui que la vie serait arrivée sur Terre venant d'espace infini. Donc on ne peut pas, c'est pas du folklore ça. C'est quelque chose, il me semble, qui invite à la méditation. Après tout, on invente les visions de l'humanité, les visions de nous-mêmes, les visions de l'autre, avec les connaissances que nous avons à une époque. Et on l'invente. Après tout, il a bien fallu à un moment donné que les hommes élargissent le champ de l'humanité aux femmes, tiens. Comme quoi, à un moment donné, des hommes ont pu vivre pendant longtemps étant parfaitement convaincus. Sur la base des connaissances de leur époque, n'est-ce pas, qu'il y a des degrés d'humanité, d'infériorité, de supériorité entre hommes et femmes. On se rend compte qu'on a cru à des bêtises, quoi. Voilà. Il paraît que la Terre est ronde, hein. Et puis ça ne marche pas encore dans l'attitude. Cette connaissance-là ne se transforme pas encore en attitude, puisque on continue à tracer des carrés avec des périmètres délimités, des frontières délimitées sur une terre sacrément plate. Il paraît que la génétique nous enseigne aujourd'hui décrédibilise complètement toute la biologie du 19e siècle qui a conduit aux catégorisations raciales. Camarade Gustave Acapo disait tout à l'heure, bon, je suis pas noir, mais c'est vrai, on n'a pas toujours été noir, on n'a pas toujours été blanc. D'ailleurs, c'est curieux que dans cette catégorisation ethnotypique qui est fondée sur la biologie du 19e siècle, jaune et rouge, ça marche plus. Hein, on dit plus jaune volontairement. Non, on dit pas ça. On dit pas quelqu'un qui est jaune ou le jaune ou la culture jaune. Enfin, ou la littérature, comment dirais-je, jaune. Hein, la littérature jaune. Non, on dit encore la littérature noire. Hein. Bon, alors, au départ, c'est la même chose quand même. Au départ, c'est la même pseudo-science. C'est la même catégorisation des individus. Et puis, il y a des catégories qui marchent et d'autres qui marchent pas. Alors, où est passée la cohérence de la question? C'est tout ça qui est religieux et paresseusement religieux parce que ça demande l'adhésion, une sorte de catéchisme qui encourage la paresse de l'esprit. Il y a des choses fabuleuses qui se déploient en cette époque et moi, je suis heureux de traverser cette époque. Oui. De voir tout ce que ça peut faire quand on transformera toute cette vision-là en attitude. Pour l'instant, grosse paresse.
Bravo. Alors, il y a des choses qui sont imposées par la religion, mais il y a d'autres choses aussi imposées par une idéologie moins marquée, mais tout aussi dominante, qui est celle d'une culture. Alors, soit effectivement, quand on s'en exclut, on est rejeté. Quand on essaie d'y revenir, on est rejeté. Et quand on arrive, on est rejeté. Je voudrais lire un extrait de Ketala de Fatou Diom, où le personnage principal qui est mort s'appelle Memoria. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de questions aussi de cette mémoire et de cette remontée du temps. Où sont les objets qui ont appartenu à Memoria qui parlent et qui font le roman? Et il raconte l'histoire de Memoria. « Et si nous poursuivions le chemin de nos Sénégalais en Alsace ?» proposa le président de séance. « Crrr !» fit Montre en remontant le temps. « Ben alors, mon vieux masque, t'es sourd ou quoi ?» Je viens de dire qu'ils s'étaient installés à Bifurcheim, où ils mangèrent une choucroute dès le lendemain de leur arrivée. Après le départ de la Parisienne, ils avaient lentement déchargé leurs valises et s'efforçaient de se sentir chez eux, se reposant enfin de leur long voyage. Je te parle de la suite de leur séjour. Je sais bien que la choucroute donne des envies de sieste, mais ils n'ont quand même pas dormi une éternité, non? Ils ont dû se réveiller, s'habituer. Enfin, habiter, quoi. S'habituer? Le virage est un peu raide, mon cher masque, ronronna Kumba Jigen. C'est une statue en bois. C'est la Vénus noire bien fournie. Comme s'il suffisait de digérer une choucroute pour se réveiller alsacien. La région est belle, mais on ne l'avale pas avec le chou. Elle se mérite. Il faut d'abord planter des pieds de vigne, les dorloter, les soigner, les tailler aussi délicatement qu'on coupe les cheveux d'une reine, attendre ensuite patiemment, très patiemment, que leurs fières grappes, heureuses d'avoir été respectueusement traitées, offrent leur jus qui se mue en nectar sacré, un secret des dieux, un Gewürztraminer qu'on déguste millésimé pour enfin prendre racine en Alsace.
Vous voyez comme c'est difficile de se réclamer d'une terre. Il ne s'agit pas de prendre des habitudes pour dire « je suis d'ici ». Et en fait, je pense que c'est l'assignation identitaire qui donne parfois aux gens justement un périmètre. Notre vie, qui pourrait dire combien de mètres carrés occupe une vie? Oui, puisqu'on change, on déménage, les circonstances de la vie font que la trajectoire n'est jamais la même. Donc, je suis née au Sénégal, je vis à Strasbourg, personne ne sait si un jour j'irai peut-être mourir en Australie ou je ne sais pas, n'importe où sur cette planète. Donc, le monde, il y a une espèce d'ouverture et là, c'est un peu une réponse à quelque chose déjà que je disais dans le vent de l'Atlantique. À un moment donné, on va je vais chez moi comme on va à l'étranger, car je suis devenue l'autre pour ceux que moi-même je continue à appeler les miens. Pourquoi? Parce que selon leurs critères d'assignation identitaire, je ne ressemble pas forcément à ce qui fait une Sénégalaise à part entière, comme disait Kossi Efoui tout de suite. Donc les gens, ils ont une idée de ce à quoi vous devez correspondre. Et le personnage répond à un moment donné que c'est sa mémoire qui est son identité. De sa trajectoire, de ses expériences, ce personnage retient ce qu'il veut vraiment garder pour se construire. Et c'est notre identité, c'est vraiment notre mémoire. Parce que les autres décident que nous allons être. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une association qui s'appelle les Indivisibles. Et je trouve ça formidable. En fait, il ne faut pas accepter d'être divisé en tant qu'être humain, puisque nous sommes des strates superposées comme ça. Et la fragmentation identitaire ne définit personne, ça morcelle. C'est dans l'accumulation qu'on s'additionne, on se complète et on devient quelque chose. Moi, vous enlevez la Sénégalaise dans moi, il n'y aura pas grand-chose pour écrire mes livres. Mais si vous enlevez la Française, je suis désolée, vous ne trouverez pas la même chose dans mes livres. Donc, il y a une mutilation à chaque fois qu'on désigne un territoire, on exclut de tout le reste. Je refuse d'être exclue d'un millimètre de cette planète. Parce que tant que je vis, je veux me laisser l'opportunité d'aller jusqu'au dernier recoin de l'Inde ou de la Chine. Et personne ne dira que ce n'est pas chez moi si je décide que c'est chez moi. Et là, pour finir, juste pour l'anecdote, quand un écrivain européen ou ressortissant de l'Occident, d'un pays riche, va s'installer en Afrique, on ne parle pas d'exil. Lui, il est libre, il va ouvrir, il a les clés du monde, il s'installe où il veut, il crée. Parce qu'il est libre, c'est un artiste libre. Mais exactement. Il y a Laurence Gavron qui a pris la nationalité sénégalaise, on ne lui demande jamais de se justifier. Mais moi, Fatou Diom, né au Sénégal de nationalité franco-sénégalaise, je suis sommée de dire qui je suis. Donc, en fait,
dans les deux pays.
Oui, dans le pays, mais dans les origines. Je suis désolée, vous rencontrez n'importe qui dans le train en allant en Alsace. Bonjour mademoiselle, vous êtes d'où? Je suis de Strasbourg. Mais oui, mais avant, je regarde, je dis du Palatinat, ça ne se voit pas. Parce que s'il avait rencontré une blonde yougoslave, la question ne serait pas venue. La découverte de l'autre aurait pris le temps du respect, de la découverte, de la rencontre, le moment qu'il faut... Enfin, le temps qu'il faut à l'autre pour accepter d'enlever des couches pour se dévoiler. Nous, on nous dit, César, ouvre-toi. Tout de suite. Donc, et du coup, de temps en temps, je dis, je suis blonde, vous le voyez bien, j'ai des origines russes. Et puis, il faut bien rire avec ça parce qu'en fait, c'est très sérieux ça. C'est une vraie blessure du quotidien parce que ça veut dire que moi, je n'ai pas le loisir de dire, au fond de moi, je suis ça, prenez tel que c'est. Et quand je suis chez moi, c'est pareil. Hein. Oui, je suis sommée de me définir à chaque fois quand je suis chez moi. Et donc ça, c'est une blessure que nous traînons. Et au bout d'un moment, je dis, je cherche mon territoire sur une page blanche. Voilà, parce que là, l'Europe et l'Afrique n'ont plus d'orgueil. Je les mets là sur une feuille. Et puis qu'ils tiennent ou qu'ils ne tiennent pas, la feuille, elle accepte l'unité. Donc voilà, c'est ça qui fait d'abord l'identité de quelqu'un, accepter ses multiples strates.
Franz Fanon parlait de la surdétermination extérieure, disons le juif est surdéterminé de l'intérieur, à la limite il peut passer inaperçu, le noir est surdéterminé de l'extérieur, cette surdétermination de l'extérieur fait écho à ce que je dis, semble que cette surdétermination extérieure autorise toutes les audaces.
Gaston Poléfa, cette unité individuelle, personnelle, qui est faite de ces multiples strates, j'imagine que ça vous parle entièrement.
Oh, complètement. Je pense que l'écrivain est celui qui rassemble ce qui est épars. Et que nous sommes, c'est exactement ce que je viens d'entendre là, et qui me comble de beaucoup de bonheur. Nous portons, vous savez, la langue hébraïque est une langue très belle. Le mot visage en hébreu, c'est panim. Épanime est un mot pluriel. Et on ne devient soi que lorsqu'on a appris à approcher, apprivoiser ces multiples couches, ces multiples visages. C'est-à-dire lorsqu'on va peut-être un jour accéder à cette unité de soi. Et je pense que l'écriture n'y mène tout droit. Et là, je vais peut-être me décaler de ce que disait tout à l'heure Cossy à propos des origines qu'il... stigmate comme religieuse. Je pense vraiment que l'origine a quelque chose de légendaire, non pas religieux, peut-être aussi ce qu'il y a de plus libre. Lorsqu'on recherche les origines, c'est peut-être le moment où on est dans la légende, et la légende signifie ce qui est à lire. Et on va le lire de façon extrêmement dégagée, libre.
Oui, je ne parlais pas de l'origine comme d'un objet religieux. Je parlais du discours dominant sur l'origine qui est une invitation à adhérer de façon inconditionnelle. Et là, on est en plein dans le discours religieux.
Mais
l'origine, voilà, l'origine lui-même, moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux la question des origines. Moi-même, je n'ai pas
le truc,
je
suis moi des oiseaux. La fabrique des cérémonies n'est que ça, d'abord. Très bien.
La fabrique des cérémonies de Cossier-Fouy. Tout ce bleu, un extrait encore, une lecture à propos de la langue, puisqu'on a beaucoup tourné autour et j'ai envie de terminer là-dessus avant de vous laisser la parole pour, à votre tour, poser des questions. La langue française, qui ne fut ni sienne ni maternelle, a pourtant su creuser plus sûrement qu'un idiolecte le sillon patient des mots. Il n'avait jamais eu d'autre présent que cette langue d'adoption, sur laquelle il n'avait cessé de se retourner, tel un maniaque de la syntaxe et de ses secrets, hanté par la Provence lumineuse d'Alphonse Daudet, par le Paris de la lutte sociale de Zola et le frémissement des fables de La Fontaine. Autant essayer de dire la stridulation des grillons dans le soir, le souffle froid du ressac, les épanchements refusés des religieuses, la geste singulière du colibri, les paysages, la lumière et les voix de l'enfance. Il comprendra plus tard que c'était ce silence aussi que faisait entendre le phrasé flaubertien, rêveur, sinueux, crépusculaire, nostalgique, et d'une précision entêtante, la merveille des langues ravivant à elle seule la vanité d'être née. Comme d'autres abolissent le monde en entrant en religion, il se retirait dans l'intime et, dans une immobile extase, apprivoisait des mots. Il scrutait dans le bleu du ciel les pans d'une mémoire qui ne lui avait jamais appartenu, mais qui lui offrait le Babil incertain, le rêve d'une origine à jamais perdue et l'ivresse délicieuse des fondations nouvelles. Aussi bien le français fut-il ce miroir trop fugace, cette langue orpheline où il fut mis au monde.
Oui, je disais qu'on est de la langue et non le contraire. Vous savez, je suis Fang du sud Cameroun. On m'a appris qu'il fallait prendre les mots au sérieux parce que nous naissons des mots. Et je pense aussi qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on dit, et je n'arrête pas de le dire à mes étudiants, qu'il n'y a pas de langue maternelle. La langue, véritablement, c'est cet espace où nous rentrons, où nous devenons des accordeurs de mots, des accordeurs d'êtres, et nous comprenons que les mots sont ces êtres humains qui sont là et qu'il faut réapprendre à vivre, à poser les ponts d'une certaine fraternité. Donc il n'y a pas de langue maternelle. Lorsque l'écrivain écrit une langue, il n'est plus dans une langue maternelle. Il est toujours dans cette langue étrangère qu'il est en train d'envisager, de donner visage, à laquelle il donne visage, et peut-être la langue qui lui permet simplement de dire aux autres, pour reprendre un terme biblique, « me voici ».
T'arrêtes avec ta Bible.
Petite provocation de la part de Fatou Diab.
C'est entre nous. Il y a un curé dans Gaston Poléfa.
Il a dit qu'il était multiple. Il faut le garder.
Il y a aussi de cela. Ce n'était qu'une strate.
C'est une de ses strates.
Alors justement, est-ce que la langue, la langue n'est pas le seul territoire, la seule terre où est possible à la fois une chose et son contraire?
Ah, complètement. La langue est le lieu de l'impossible. Et lorsque nous écrivons, on rentre dans l'impossible, c'est-à-dire à la fois dans le mensonge et dans le désir peut-être de vérité. Celui qui écrit, comme dit Lacan, dès lorsqu'on commence à dire le premier mot, on rentre dans le mensonge. Et en même temps, ce mensonge est peut-être la chance que nous avons de pouvoir poser les graines de la vérité et de devenir le petit poussé pour nous-mêmes d'abord et pour les autres. Donc on oscille sans cesse entre les deux. Le mot nous trahit sans cesse, et c'est parce qu'on apprend à l'apprivoiser qu'il peut enfin devenir pour nous une lumière dans la nuit.
Fatou, une remarque?
Ça. Je l'embête tout le temps, mais bien sûr, il y a un mensonge, puisqu'il y a création, mais moi bien je sûr. Dirais plutôt poésie. Mais le texte, chacun le vit comme il peut. Personnellement, le texte, c'est surtout l'endroit de la vérité, et surtout la vérité qui peut faire mal, surtout les mots qu'on ne m'autorisait pas. C'est vraiment le droit à la parole, c'est l'instant où on dit « je vais sortir le mot, il y a un oiseau qui va s'envoler, pourtant il faudra qu'il se pose quelque part, et il faudra lui faire une place dans le monde ». Et c'est l'interdit, c'est la chose...
C'est aussi l'endroit l'oiseau fermé. Impossible.
Oui, c'est la vérité. Pour moi, c'est la vérité. En fait, quand j'écris, c'est le moment où je me dis, super, là, vous allez avoir la possibilité de me détester totalement ou de m'adorer à fond parce que je vais être absolument moi avec ce que je pense. Et c'est le seul endroit où j'arrive à oser faire ça. Parce que dans la vraie vie sociale, si vous faites ça, vous perdez tout le monde. Vous perdez la famille, vous perdez les amis et tout le tralala. Alors que quand vous écrivez, moi qui suis petite, je suis une fille musulmane, je suis née dans une famille musulmane, dans un village musulman, avec plein d'interdits, avec plein de choses auxquelles je n'avais pas droit. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai mesuré ce que j'appelle parfois blasphème. Ce n'est pas toujours religieux quand je dis blasphème. Mais j'appelle blasphème tout ce que je peux sortir de ma bouche et qu'on pouvait m'interdire et que grâce à l'écriture, personne n'y peut rien. C'est l'ouverture, c'est la vérité qui va souffler une espèce de vent comme ça et ça va m'emporter et je suis prête. Mais alors ça va tomber sur la gueule de tout ce qui voulait me baïonner.
C'est ce que tu refusais dans ce que j'appelais « me voici ». C'est exactement ça. Vous en faites ce que vous voulez, me voici.
Vous êtes d'accord? Gustave Agapo.
Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, si je considère que j'ai deux langues maternelles, le Mina et le français, et dans mon autre langue maternelle, le Mina, j'aime bien comment c'est dit quand Agbe. Agbe veut dire vie, Gbe veut dire langue, voix en même temps, et Agbeto veut dire le propriétaire de la vie, l'être humain est désigné ainsi Agbeto, ou pour parler plus fond, Gbeto, le propriétaire de la langue. Donc il y a dans cette idée que tu disais que finalement... De responsable, oui, de responsable. Hein. Le père, c'est le père au sens du code civil, le père responsable de la langue.
De mon père, oui.
Oui.
Responsable.
Et je trouve que ça fait écho à ce que tu dis de manière très juste.
Merci. Voilà, puisque Fatou Diom a parlé de la parole libre, prenez-la, imposez-la. Il y a un micro, je crois qu'on va faire passer le micro pour qu'on puisse vous entendre.
Alors, moi j'ai une toute petite question à poser à tous. J'aimerais savoir, comment est-ce que vous vous sentez ici en France, vous qui venez d'horizons aussi diverses? Comment est-ce que vous avez réussi à vous intégrer dans la société française, dans le pays qui est la France? Et qu'est-ce que vous pensez des Français? Qu'est-ce que vous pensez de votre situation ici en France, ou à Paris, pour être précis? Alors, est-ce que vous pensez que nous, qui sommes issus de la minorité, avons, pas une chance, mais des chances de nous en sortir? Est-ce que vous pensez que la société française va finir un jour par accepter tous les gens qu'on appelle les gens issus de la minorité, qui sont noirs, qui soient, etc., etc.? Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour nous, et comment est-ce que vous avez réussi?
Alors, est-ce que vous voulez répondre à ces multiples questions, petites questions? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question?
Peut-être deux mots simplement pour lui dire que cette question n'est pas toujours clairement abordée par l'écrivain, parce que l'écrivain peut-être assume sa minorité. Je pense que lorsqu'on écrit, on accepte de devenir mineur. L'auteur qui rentre dans le mouvement de l'écriture refuse, je disais tout à l'heure, qu'il devenait imperceptible, c'est-à-dire qu'il refuse la reconnaissance, il ne veut pas être reconnu, il ne veut pas être connu d'abord. Si cela vient, c'est à son corps défendant. Donc il va assumer cette minorité, j'allais dire que l'écrivain devient donc finalement d'abord une femme, un nègre, autre chose. C'est d'abord cela que je suis dans l'écriture. Ma société, c'est mon espace d'écriture. Si vous voulez me demander comment je suis devant mes étudiants, je peux vous le dire. Mais j'allais dire, ça n'intéresse quasiment personne. Oui.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir, répondre? Je crois qu'on entamerait un vaste débat qui ne serait pas forcément celui qui nous concerne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque, commentaire? On laisse un petit peu de temps.
Si on se met à chanter, ça va être terrible.
Fatou Diom m'a prévu de chanter.
C'est une question qui n'a rien à voir avec la première question que j'ai posée à l'instant. Bon, c'est une question qui a à voir en fait avec le fait d'écrire. Vous êtes des écrivains, vous écrivez des choses qui vous sont arrivées. Vous et vous. Mais par contre, moi, ce que je me pose comme question, je veux dire, quel conseil vous avez à donner aux gens qui sont assis ici aujourd'hui, ce soir, parmi vous? Quel conseil vous avez à leur donner pour qu'ils puissent au moins s'expanser et écrire aussi, peut-être pas comme vous, mais ce qu'ils sont déjà. Quel conseil vous leur donner?
Un conseil de quoi? D'écriture?
Un conseil d'écrivain.
L'écrivain n'a pas de conseil. C'est juste parce qu'il se casse la gueule à vivre et qu'il n'y arrive pas qu'il écrit. C'est une tentative de comprendre le monde qui pousse à écrire. Donc on n'a pas de réponse. On a beaucoup plus de questions que de certitudes. Et peut-être que votre manière de voir le monde est peut-être plus lucide que la mienne. Et en l'occurrence, ma manière à moi d'être lucide me crève les yeux. Ça fait tellement mal que je ne peux pas dire à quelqu'un que c'est la meilleure voie. C'est juste une tentative. Et toutes les tentatives sont valables.
Peut-être, Gustave Akakpo, à propos, parce qu'on a dit qu'on y reviendrait un tout petit peu peut-être tout à l'heure, à propos de ces chantiers d'écriture, de ces ateliers d'écriture, profiter de cette question pour en dire un mot. On l'a évoqué tout à l'heure, ça vous a fait voyager, et ça vous a fait voyager dans l'écriture et dans vos thèmes d'écriture, mais ça vous a apporté aussi d'autres choses, d'autres rencontres et une autre manière peut-être d'écrire, puisque là vous avez confronté votre travail à celui d'autres.
Oui, je dirais peut-être pour en parler, mais parce que je ne sais pas, peut-être c'est dans mon fantasme, mais j'entends aussi très bien la difficulté du parcours de ce monsieur qui pose la question de est-ce qu'on est dans une société, comment on s'intègre, comment. Moi, ça m'embête de m'intégrer, parce qu'il faut désintégrer quelque chose pour réintégrer. Donc, voilà, je pense que c'est, Fatou l'a très bien dit, c'est des strates. On a des strates en nous par rapport aux histoires qu'on vit. Et il se trouve que, et c'est ça qui est formidable aussi, finalement, l'être humain ne voit pas, à mon sens, peut-être que je suis trop présomptueux en disant ça, que nous sommes que des cellules d'un tissu. Que ce tissu, c'est l'humanité. On s'en rend de plus en plus compte. On se rend de plus en plus compte que quand on fait mal à la planète quelque part, ça provoque des chocs ailleurs. Donc, tout simplement pour dire que, effectivement, dans ces cellules que nous sommes, nous composons un petit tissu qui s'appelle une nation, et que cette nation-là aussi compose avec ses strates d'identité, et que effectivement la question de quelle est l'identité d'une nation aussi se pose. On n'est peut-être pas dans ce cadre-là, mais c'est dire que finalement la question qui nous réunit aujourd'hui est une, à mon sens, est une question fondamentale. Bon, maintenant, pour revenir sur cette histoire sur les chantiers d'écriture, les résidences. Alors il y a Monique Blin qui est dans la salle et puis un certain nombre d'autres personnes qui sont parties de ce principe que on peut provoquer des envies d'écriture à partir du voyagement des auteurs, prendre des auteurs du lieu, une sorte de, justement là d'exil un peu momentané. Prendre des auteurs de différents horizons, les mettre dans un lieu auquel ils ne sont pas habitués.
Une île,
justement, qui peut s'appeler la Syrie, le Togo, le Mali, Anvers, etc. Et aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs îles, évidemment, ces auteurs arrivent avec tout ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont, et ils rencontrent des gens, et puis tout ça, à partir de là, si vous avez envie d'écrire quelque chose, écrivez. Et c'est ça le principe de ces chantiers, de ces résidences d'écriture. Et je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai voyagé, plus je me sens profondément humain et plus je trouve qu'il y a une bêtise à vouloir imposer à l'autre sa façon de faire. Et je trouve que c'est toujours dans la rencontre qu'il se crée quelque chose, qu'il y a possibilité d'inventer un autre parcours. Mais à partir du moment où on est figé sur ses acquis ou sur ce qu'on sait et qu'il n'y a pas cette ouverture-là, on apprend à en sclérosé et puis c'est fini, et puis c'est la mort, en mon sens. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ces chantiers d'écriture qui réunissent différents auteurs venant d'horizons différents.
Voilà, le moment de la rencontre, c'est aussi celui que vous nous avez offert ce soir. Merci à vous tous. Je voudrais rappeler les titres des quelques livres dont j'ai lu dont vous avez lu des extraits. On aurait pu en choisir d'autres, il y en a beaucoup, hein. Vous avez tous une bibliographie assez longue. Gustave Kakpo, Abat Alep aux éditions Lanzmann, et puis Catharsis avec Ileki et les autres frères, et cette reine dont on a lu tout à l'heure et qui attend plus à Gaston Poléfa, c'est aux éditions Lanzmann aussi. Mais ils sont à la librairie, vous pouvez les voir à l'extérieur ou sinon les voir un petit peu plus tard. Gaston Poléfa, Tout ce bleu aux éditions Grasset, Le cri que tu pousses ne réveillera personne aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir. Ce ne sont pas les derniers non plus, mais voilà, j'aurais pu prendre d'autres extraits aussi. Fatou Diom, Inassouvi nos vies chez Flammarion, là c'est le dernier paru. Ketala, qui était en 2006, qui est ressorti dans la collection J'ai lu. Et puis Le ventre de l'Atlantique, on l'a évoqué tout à l'heure, il existe aussi en poche, sinon c'était sorti chez Anne Carrière. Cossier Fouille, Volatile aux éditions Jocasseria, La fabrique de cérémonies aux éditions du Seuil, et puis Solo dans Revenant. Alors là, le simple titre, je pense, résume d'une certaine manière pas mal de nos propos de ce soir. Donc merci à vous quatre. Je vous invite à retrouver ces livres et d'autres à la librairie. Et puis je vous invite aussi à rester pour, dans quelques minutes, assister à la table ronde qu'animera Boniface Mongoboussa à propos d'Amadou Kourouma et de Mongo Betty, deux itinéraires d'exil avec des lectures d'extraits de leurs œuvres par Vincent Bird le Sage. J'espère que je prononce bien, comédien. Merci beaucoup et à plus tard.